On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Oh Quentin, ça va?
Coucou
Chris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelle belle semaine nous avons passée. Mais ce soir, je dois vous avouer que je vais avoir du mal à honorer le titre de mon émission. Effectivement, après avoir tutoyé et reçu les plus grands noms de chanteurs et de personnalités françaises et internationales dans On se tutoie sur Nostalgie, Michel Polnareff, Bertignac, Bruel, Pascal Obispo, Gérard Darmon, Marc Lavoine, Véronique Sanson et j'en passe. Comment arriver à tutoyer une personne pour qui j'ai le plus grand respect depuis toujours? Une espèce de cœur de rocker qui ne doit, au quotidien, dans son entourage, tutoyer quasiment personne. Je n'aime pas trop le faire sur l'antenne de Nostalgie, mais je dois vous mettre dans la confidence. Lorsque j'étais petit garçon dans ma famille, on était tous fans. Mon grand-père, agriculteur et natif de Lyon, m'avait dit, lorsque j'avais 10 ans, « Mais tu sais, il a une propriété pas loin d'ici. » Eh ben moi, avec Jean-Philippe, le fils de mon parrain, nous partions de la ferme natale de mon grand-père en moto, naviguer aux alentours de sa propriété, et moi, je rêvais en fredonnant de le croiser, ce qui n'est jamais arrivé. En mon fort intérieur, je me disais, en fantasmant de le rencontrer, comment arriver à le tutoyer ? Je n'allais tout de même pas rameuter la cavalerie ou implorer les chutes du Niagara. Je n'allais surtout pas oser appeler Hélène, Lily, Mélissa, ni encore moins la fille au banilon ou celle de la véranda. Même si je chantais à tue-tête, partir. On a tous un bateau dans le cœur. Et je ne cessais de me répéter, oui, femme, je vous aime, mais je me disais, allez, ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Lui, tu crois qu'il va arriver à me tutoyer ? Moi, ma préférence pour me lancer face à lui aujourd'hui, pourquoi pas moi, tenter de le tutoyer serait plutôt, tout simplement, de laisser entrer le soleil. Dans ma vie au quotidien, en famille, avec les enfants, à la télé, à la radio ou sur scène, quand je joue, je suis comme un fou. Et chaque fois que j'écoute une de ses chansons, c'est un petit bout de mon existence que je vois défiler. Un morceau du puzzle de ma vie qui se fait une place au fond de mon cœur. Bonsoir Julien Clerc.
Bonsoir Jean-Luc.
Alors j'ai un gros...
Tu vas bien ?
Oh oui ! Mesdames et messieurs, mais je suis tellement fier, tellement heureux. J'en ai parlé avec tout le monde et là tout le monde me dit mais non, il va pas y arriver, je vais pas y arriver. On se tutoie ?
Mais ouais, bien sûr.
Ah, je suis très
mais
très
alors
heureux.
Cette histoire de Lyon, c'est génial.
C'est extraordinaire.
J'ai deux maisons dans Lyon, moi.
Ouais.
La première avec France en fait, avec France Gall.
Oui.
Et puis après Je trouvais que c'était trop près d'Auxerre. Je trouvais qu'il y avait trop de constructions
oui.
tout autour de nous.
Oui.
Et alors, j'avais souhaité m'enfoncer vers la Puisée. Alors, toi, tu étais près de laquelle ?
Alors, moi, j'étais proche de Sens dans Lyon.
Ah, donc...
Et puis après, bien au nord de la Bourgogne et de
ouais,
Lyon.
Ouais, d'accord.
Et on partait en moto avec le fils de mon parrain, Jean-Philippe. Je vous assure que c'est vrai. C'était une Suzuki GT500, je m'en rappelle
ouais.
encore.
Mais est-ce que c'était celle où j'avais... Les grands étangs, là.
Oui, c'est exactement
ouais, c'est ça.
Donc, on faisait le tour de la propriété en espérant entreapercevoir
ouais.
un cheval ou quelqu'un ou quelqu'une. Je crois que c'était à l'époque avec Miu Miu, peut-être, non ? Je me trompe.
Ah oui, c'était une période de vie. C'était dans le pays de Colette, en fait.
D'accord.
Près de Saint-Sauveur en Puisaye.
Et vous avez trouvé là-bas de quoi vous aérer, de se dire, tiens, espace d'air pur.
J'étais un petit peu en avance, là. J'étais un petit peu écolo à l'époque.
Oui.
Et... je souhaitais faire une propriété à l'ancienne. Il y avait des moutons. C'était vraiment une grosse propriété. Donc, il y avait 300 moutons. Il y avait
c'était une
des
source
poules, des canards.
C'était une source d'inspiration pour vous ou pas ?
C'est pas tellement ça. C'était que, je sais pas, c'était un espèce de fantasme de parcourir mes terres à cheval. Voilà.
Alors, ouais.
C'est ce que j'ai fait pendant 4-5 ans.
Vous étiez un peu précurseur quand même à l'époque.
Pardon ?
Vous étiez un peu précurseur. Tu étais
oui,
un peu précurseur à l'époque.
Oui, un peu. Parce que, comme dans l'histoire de Fernand Reynaud, Crésus, là, il n'y avait guère que le sel que je ne faisais pas.
Ouais.
Tout le reste, on était autosuffisant quasiment.
Extraordinaire.
Ouais, donc, voilà, le potager, les poules, machin.
Eh bien, c'était dans Lyon. Vous voyez, j'avais 10 ans à l'époque et je suis très, très content.
C'est un pays que j'adore, moi, parce que c'est un pays qui n'est pas loin de Paris.
Bien sûr.
Et qui est encore complètement... encore des forêts mystérieuses et des, et des étangs profonds et poissonneux.
On salue tous les iconés, puisqu'on les appelle les iconés, bien sûr, ouais. de Lyon. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Julien Clerc ou les plus jeunes, on va commencer, on va pas tout dire, parce que tout a été dit, tout a été fait sur Nostalgie. Nous, c'est la nostalgie positive. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence vers 20 ans, 21 ans. Et puis, alors là, je trouve que c'est un énorme coup de bol. On monte à cheval, là. Et ouais. C'est un coup de bol.
C'est-à-dire, la cavalerie. C'est-à-dire.
Parce que les paroles sont un détonateur pour moi et pour toi, quelque part. Et cette chanson, elle tombe bien en 1968, quand même.
Oui, oui, mais le coup de bol, c'est d'avoir fait... Bon, on ne raconte pas tout, mais d'être arrivé à un moment de la vie où, à 19, 20 ans, j'ai plein de mélodies. Je suis capable d'écrire des mélodies sur mon piano, je m'en rends compte. Mais j'ai pas de parole. Le coup de bol, c'est que je suis dans ce bistrot où je vais tous les jours parce que c'est à côté de la Sorbonne où je fais soi-disant des études d'anglais et que un jour, ayant toutes mes mélodies, ne connaissant personne évidemment dans ce métier, je dis mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui écrit des paroles? Et le coup de bol, c'est qu'il y a quelqu'un qui répond, qui dit moi. Et c'est Étienne Rodagil, c'est ça le coup de bol.
Le coup de bol, mais le double effet qui se coule, ce que je veux dire, c'est que par rapport à mai 68 et aux événements, d'un seul coup, il y a une espèce de rébellion, et cette chanson, elle fait sens quand même, dans le contexte social, c'est ce dont je parle, Julien.
Tout à fait, mais lui, il est complètement là-dedans, jusqu'au cou. Lui, il est un acteur de mai 68, nous dit-il en tout cas.
Bien sûr.
Il est sur les barricades et tout ça, donc il écrit, il théorise ça depuis déjà... des années avec ses copains, cette révolution
étudiante. Et il vous met
là-dedans. Et il me met là-dedans.
Ouais.
Bon, mais moi, j'aime bien, je les trouve bien, ces paroles. Et puis, il est une personnalité qui arrive de nulle part. Il est un peu comme moi, il est plus âgé. Mais il a, voilà, il a cette espèce de style et ces paroles qu'on a... je crois, pas souvent entendu dans la chanson française, si ce n'est jamais.
Preuve en est, c'est que ça marche encore aujourd'hui. Le petit Julien fait son petit bonhomme de chemin. Le petit Julien fait la première partie de Gilbert Bécaud.
Oui.
Mais alors là, il faut que tu me racontes, parce que j'avais pas l'info, évidemment, il faut aller gratter un petit peu. Comment tu arrives à faire la première partie de Gilbert Bécaud?
Eh bien donc, quand le disque sort...
Oui, on est toujours sur la cavalerie.
Oui, oui, la cavalerie.
Ouais.
Je vais très rapidement signer... un contrat d'édition chez Gilbert Bécaud, dans sa maison d'édition qui s'appelle Le Rideau Rouge. Et donc, il me dit, très très vite, il me dit, au moment de la deuxième chanson qui s'appelle Ivanovitch, la cavalerie sort en, je sais pas quoi, en mai, donc et puis Ivanovitch en octobre, il me dit, écoute, je veux que tu sois ma première partie à l'Olympia en février qui va venir, donc février 69.
Ouais.
Et il me dit, mais avant, démerde-toi, fais de la scène, apprends ton métier. Et c'est là que Adamo, très gentiment, me prend dans sa tournée, alors qu'elle est le programme de la tournée faite. On sait qu'à l'époque, on est encore dans le, si on peut dire, le vieux musical français, c'est-à-dire que la vedette ne fait que la deuxième partie.
Mais c'est ça.
Il chante une heure et un quart.
Ouais.
Et en première partie, il y a plein d'artistes. Et
la vedette américaine, c'est ça
américaine, c'est 6-7 chansons, fin de première partie.
Alors, excusez-moi, je n'avais pas la référence, monseigneur.
Vedette anglaise,
voilà.
Début de première partie, 3-4 chansons.
C'est extraordinaire, je n'ai pas la ref. Vedette anglaise d'abord, et après, vedette américaine.
Ouais, et
on traverse l'Atlantique.
Et gentiment, Adamo me prend en espèce de co-vedette anglaise. Quoi. Il me fait une petite
là,
place.
C'est pas Bécaud, c'est Adamo.
C'est Adamo.
Oui.
Et on termine Adamo, on fait Adamo d'octobre à décembre. On termine Adamo en décembre, je ne sais plus, janvier. Et là, avant l'Olympia, Bécaud, il fait les anciennes Belgiques à Bruxelles.
Oui, bien sûr.
Et je termine Adamo dans le Nord, là. Mmh. Et hop, je m'en vais, j'enchaîne directement avec Bécaud aux anciennes Belgiques à Bruxelles. Après, à l'Olympia en février.
Le personnage Bécaud est un personnage hors norme, on est d'accord.
Ah bah oui, c'est un des grands, grands, grands artistes français. C'est un des représentants de la chanson française.
Tu as pu apprendre quoi de lui?
Bah tout, tout ce que j'aimais et même ce que je n'aimais pas. Donc,
les excès?
Ah, ce n'est pas les excès.
C'est l'image qu'on a, nous, nous a été renvoyée.
Non, mais c'est-à-dire, Gilbert, c'était un rocker avant l'âge. Hein. Enfin, je veux dire, avant l'heure.
On
a cassé pour lui des fauteuils, on le sait, à l'Olympia. Le premier pour qui on a cassé des fauteuils, ce n'est pas Johnny, c'était Gilbert.
Mm-hmm.
Et Gilbert, la presse l'appelait Monsieur 100 000 votes, c'était vrai. Il était tout le temps comme ça. Mais c'était un homme de scène exceptionnel. Et le voir travailler tous les soirs, il n'y a pas un soir où je l'ai raté. Je l'ai regardé tous les soirs. Et il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres moins, mais c'est comme ça que je me suis formé.
Tu trouves pas que c'est quand même assez injuste ce qui se passe par rapport à Gilbert Bécourt à aujourd'hui ?
C'est vrai.
Je trouve, hein, et après...
Oui, mais c'est vrai, parce que ça a été un compositeur exceptionnel.
Ouais.
Il a eu d'énormes succès aux États-Unis. Il a été un des premiers aussi à avoir des succès en tant que compositeur. Bon, peut-être que c'est très, très injuste, mais je pense que ça reviendra, bien sûr. Mais Aznavour, pour la différence entre les deux, je dirais, parce que j'ai bien connu Charles aussi. La différence entre les deux, tu vas comprendre tout de suite, c'est que Charles, il a écrit des chansons sur la vieillesse, il avait encore 30 ans.
Oui, il avait anticipé.
Il s'est projeté, il avait anticipé. Bon, Gilbert, il avait du mal à vieillir. Alors, il avait du mal à accepter le temps.
Non, mais toi, on va parler de... Excuse-moi, je te coupe un petit peu, mais on va en parler de tous les prénoms que tu as employés dans tes chansons. Lui, quand il chante Nathalie, c'est aujourd'hui dans tout le cœur des jeunes qui ont une maman, une grand-mère qui s'appelle Nathalie. C'est quand même des sonorités qui sont restées, Gilbert Bécourt. C'est pour ça que je parle de cette injustice.
Oui,
le petit oiseau de toutes les couleurs.
Ouais, extraordinaire.
Mais oui.
Il rentrait en scène sur Petit Oiseau.
Mais oui, je me rappelle.
Oui.
Non, donc c'est pour ça que je parle de cette injustice, Julien.
Oui, mais c'est-à-dire que peut-être musicalement, c'est Charles, il a mieux compris les jeunes qui arrivaient. Charles, il a tout de suite écrit pour Sylvie Vartan, il a écrit pour Johnny.
Gilbert, il avait du nez, quoi.
Oui, il avait du nez, puis Gilbert, il a moins saisi, on va dire, la transformation musicale. Je pense qu'il aurait suffi qu'il reste à sa place, tranquille, qu'il fasse du béco. Mais il a, à certains moments, il a voulu, me semble-t-il, je ne voudrais pas paraître trop sévère avec quelqu'un que j'ai aimé tendrement.
Non, mais on parle. Ouais, non, moi, j'ai besoin de ton sentiment à toi.
Il a réenregistré des chansons, par exemple, en changeant les arrangements, en les faisant plus, entre guillemets, modernes. Alors que je pense que dans la vie, il faut accepter le temps qui passe, faire ce qu'on sait faire. Mais j'ai appris ça en le regardant faire, justement.
Non, mais il y a du bon à prendre chez chacun. Ouais, et ce qu'il y a d'intéressant, on parlait juste avant l'enregistrement de cette émission, c'est que toi, tu as tenu à garder les mêmes tonalités,
ouais.
Malgré toutes ces décennies qui sont passées. Quand on chante Ce n'est rien, c'est la même tonalité.
Ah oui. Je pense que... Oui, parce que je ne pense pas que chanter, ça soit un métier, de dire la vérité. Je pense que c'est une façon de vivre.
Ça, c'est fantastique. Donc, c'est une passion, ça fait partie de toi intégrante.
Ouais.
On est d'accord.
Ouais. J'ai une fille qui dit, papa, il fait un sauté de veau, puis après, il va se mettre au piano, mais elle a raison.
C'est Vanille ?
Non, c'est Jeanne.
Ah, c'est Jeanne. D'accord, très très bien. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a dit, surtout, Julien... Ne perdez jamais vos aigus. Ça m'a marqué un petit peu, donc je l'ai noté, tu comprends bien.
C'est Madame Charlot.
Alors, je voudrais bien savoir, ne perdez pas vos aigus, parce qu'on a une voix qui s'aggrave, entre guillemets.
C'est ce qu'on dit.
Et ça veut dire quoi, ne perdez
D'abord,
pas vos aigus?
D'abord, on n'a pas tous la même voix.
Bien sûr.
Alors, on a des gens qui sont plus à l'aise dans les aigus. Il y en a qui doivent faire attention à leurs aigus, d'autres qui doivent faire attention à leurs graves. On n'a pas tous la même longueur de cordes vocales, si
sûr.
On veut rentrer dans la...
Mais, il paraît que Nana Mouskouri n'en a qu'une.
Pardon ?
Il paraît que Nana Mouskouri n'a qu'une corde vocale.
Ah bon ?
Oui, c'est ce que j'ai posé cette question à la télé, je suis tombé sur la tête. Alors, ne perdez pas vos aigus.
Oui, elle voulait me dire par là, vous, il faut que vous gardiez ce côté juvénile vocal.
Authentique.
Et donc, pour ça, il faut travailler, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut travailler, il faut faire comme les... Il faut faire comme les tennismen ou les footballeurs. Et sauf que les tennismen et les footballeurs, à un moment donné, sont rattrapés par leur corps, les grands sportifs. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et que vers 40 ans, ils ont... tandis que nous, si on bosse, eh ben, on peut chanter toute notre vie.
On peut garder nos aigus, en fait.
Voilà.
Alors, les aigus, juste, je vais faire une petite pause musicale, bien évidemment, parce que nous sommes sur Nostalgie, avec l'immense Julien Clerc ce soir. Le détonateur aussi, c'est R, évidemment, qui arrive dans ta vie. On te parle de cette comédie musicale qui est venue d'outre-Manche, d'ailleurs. Et toi, quelque part, tu te dis « je veux aller me rendre compte sur place ». Tu traverses la Manche et tu vas toi-même te rendre compte parce que le postulat de base, c'est « tiens, il faut jouer nu ».
Oui, c'était ce qu'a raconté la presse. Mais il se trouve que le personnage que je jouais n'était pas nu parce que je chantais pendant la scène de nu.
Donc, oui.
Ça tombait bien d'ailleurs parce que je n'avais pas du tout envie d'être tout nu.
Oui.
Mais enfin, R, c'était beaucoup plus que ça. Hein. Ça, c'était la pub qui était faite. C'était surtout, avant tout, une mise en scène révolutionnaire. Et puis, 12 chansons exceptionnelles sur tout ça. Et que les auteurs étaient effectivement très raccord avec la comédie musicale. Ils étaient très hippies, les auteurs. Mais le compositeur, qui s'appelait McDermott, qui était un petit américain, je pense, un petit monsieur américain d'origine irlandaise, bien sûr, il était en costume, il était drôle. Il avait une veste verte, un pantalon. Il n'avait rien à voir avec le compositeur. Mais c'est ce qu'ils ont fait ensemble, les auteurs et le compositeur. Ils ont fait une musique immortelle, en fait. Et ça correspondait à une certaine période.
L'ère du temps de 69.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Et la guerre du Vietnam, ça c'est très 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 important.
Oui, parce que le message...
Voilà, le refus de la guerre du Vietnam.
C'est-à-dire que toi, tu pars au combat.
Oui, enfin moi, je fais un spectacle, je me dis.
Oui.
Mais je vois bien que c'est un spectacle révolutionnaire, surtout. Voilà, c'est-à-dire que c'est le premier opéra rock, on appelait ça opéra rock.
Et tous les jeunes de l'époque, en 69, et j'en faisais partie, pouvaient s'identifier à ce mouvement baba cool, un peu peace and love, que tu as représenté magnifiquement bien avec tes cheveux longs. Parce que là, tu étais quand même porteur d'une flamme pour nous, les jeunes.
Ouais, sans doute.
Ah, mais j'en suis sûr. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas la référence ce soir sur Nostalgie, eh ben écoutez, la version original, vous allez voir, la voix n'a pas beaucoup changé. C'est Julien Clerc que j'ai la joie et l'honneur de recevoir ce soir. Version originale,
ouais,
Julien.
Ouais, version originale. Quête, traqué à bout
de souffle marre, chante. On se tutoie.
Et on profite enfin du week-end jusqu'à 20h.
Jean-Luc Reichmann sur Nostalgie.
Est-ce que tu as un téléphone sur toi? Il faudrait l'arrêter pour le
roaming. Absolument.
Si tu peux l'arrêter, ce serait génial. On a entendu Ray Charles.
Exact, on a entendu Hit the Road Jack.
Je te fais tourner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la chanson? On entend Ray Charles en même temps que Julien Clerc. C'est quoi ce bin,
Julien? C'est mon téléphone. Mais alors, j'ai éteint. Hit the Road Jack.
Non, mais c'est extraordinaire. Pourquoi Hit the Road Jack?
J'adore cette chanson. Et puis en plus, c'est un souvenir.
Don't you come back?
Ah, ouais.
Non. Pourquoi celui-là, le souvenir?
Parce que j'étais allé le voir, moi, à l'Olympia, oui. Avec les Rollettes qui chantaient ça.
Les Rollettes
qui chantaient oui. Va-t'en, Jack.
Oui.
Hit the road, Jack.
Et qu'est-ce que...
ne revient plus jamais.
Quel souvenir tu as de ça?
Ben, j'adore. Ray Charles, ça a été une de mes révolutions personnelles quand je l'ai vu. Il y a eu 2-3 spectacles dans ma vie que j'ai jamais oublié quand j'étais
fondateur. Pourquoi Ray Charles, l'univers?
Ah bah d'abord parce que ça faisait partie de la musique que j'écoutais, moi, en faisant mes devoirs et tout ça. C'était Ray Charles. D'ailleurs, souvent, le Ray Charles, des balades avec les grands orchestres à cordes. C'est ça que j'aimais. Mais enfin, je suis allé le voir sur scène. Il était amené par un grand monsieur qui l'amenait, parce qu'il n'était pas très 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 grand, et qui l'amenait au micro, parce qu'il rentrait sur scène en jouant du saxophone.
D'accord.
Et donc, il allait au micro, il était accompagné par un gros bodyguard comme ça. Là, il commençait, premier morceau, un morceau tout à fait jazz.
Au sax.
Au sax. Et après, si je me souviens bien, il allait pratiquement tout seul à son piano s'asseoir.
Ouais.
Et là, voilà. Et il était, alors, il avait un espèce de balancement comme ça.
Oui.
Un peu comme Stevie Wonder.
Bien sûr.
Il avait un balancement avec son corps qui imprimait le rythme, en fait. Et il était connu, Ray Charles, pour s'en prendre à ses batteurs. Et donc...
Pourquoi?
Parce que quand le batteur n'était pas tout à fait dans le bon tempo, il les brassait. Quoi. Donc il était connu pour dire voilà, « Don't rush me, drummer !» Ne me speed pas, quoi. Ne va pas trop vite,
oui.
garde le tempo. Voilà.
C'est marrant parce que chaque artiste t'a inspiré quelque part.
Oui, plein.
Mais ça se sent à chaque fois que tu me parles de quelqu'un, tu gardes une image, tu gardes une sensibilité, une sensation.
C'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça.
Excuse-moi, mais j'essaye de rebondir sur ce que tu dis. Et nous, dans cette jeunesse folle, toi tu étais avec Ray Charles, que moi j'étais avec Julien Clerc, et de temps en temps je me disais, eh ben, tu sais quoi, c'est compliqué, mais ce n'est rien, en fait. Tu vois ce que je me disais? C'était ça. Tu laissais bien le temps passer.
Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
Celle-là, elle est magnifique, celle-là aussi.
Oui, quand j'ai fait l'Olympia la première fois, c'était incroyable d'ailleurs, je n'avais pas encore de gros tubes. Je l'ai fait assez vite après R, j'ai fait l'Olympia.
Oui.
Et donc, à la fin du passage, Bruno Coquatrix, qui était un des grands prêtres.
C'était le grand ponte, bien
de
évidemment.
Grand ponte du,
il te programmait ou pas ?
De music hall, voilà. Oui. Et alors, à la fin, il y avait du, comment on appelle ça, le passage, à la fin du passage. T'imagines qu'on m'avait donné 10 jours à l'Olympia. C'est incroyable. C'est-à-dire que.
Impossible à l'époque.
Je veux dire, 10 jours. Aujourd'hui, les gens, ils font l'Olympia.
Deux fois,
les jeunes.
Mais oui,
moi,
bien sûr.
10 jours, on m'avait donné. Et bon, c'était pas tout à fait plein tous les soirs. Mais bon, avec le bouche à oreille, ça avait fini par marcher. Et on avait tiré les enseignements du passage, c'est comme ça qu'on appelle ça. Chez lui, il faisait des pâtes. Alors, il m'avait dit, écoutez, je vais vous dire une chose. D'abord, il va falloir que vous changiez certaines choses avant de revenir ici. Je vous le dis tout de suite. Alors, d'abord, jamais une star n'a eu les cheveux longs en France, d'accord ?
Extraordinaire.
Bon, et ensuite, il faut que vous arrêtiez d'écrire des chansons pour les petits minets du 16e. Donc, vous allez penser au peuple. Et écrire des trucs un peu plus populaires. J'étais sorti de là avec les épaules très basses.
Mais...
Et puis, dans les 8 mois qui ont suivi, j'ai écrit « Ce n'est rien ». Et alors là, tout d'un coup, je l'ai eu, mon tube. Bon. Et alors là,
on s'adressait à la masse plébéienne et la Coquatrix, d'un seul coup, se dit « Voilà !»
Il m'a rappelé.
Ouais.
Et il m'a dit « Revenez me voir
oui. ».
On est retourné avec Charlet Marouani.
Mm-hmm.
Et il nous a dit « Bon, alors maintenant, on va re-signer, vous allez repasser. » Et nous, évidemment, on attendait que ça depuis un an.
Évidemment.
Alors on dit « Mais Bruno, vous nous avez dit il y a un an qu'il ne fallait pas avoir des cheveux longs et que mes chansons, ça n'allait pas. » Il m'a dit « Écoutez, vos chansons, ils s'y sont habitués. »
C'est fantastique. Et dans cette effervescence, on s'habitue et on chante tous ensemble. Si on chantait. Ah ouais, alors ça a pris la tête. Là, au niveau du populaire, il n'y avait rien de plus populaire. Dans cette époque-là, on est dans les années 70, on a Fugain qui fait chanter la France, et on a Julien Clerc qui fait chanter la France, on est d'accord.
Guy Lux, il avait pris cette chanson.
Ouais.
Il avait une
émission
en générique.
Ouais.
En générique d'une émission de radio.
Tu t'imagines donc la popularité. Alors, j'en passe et des meilleurs, évidemment, parce que là, il y a des choses qui deviennent un petit peu plus personnelles. Et à chaque fois, tu t'inspires de ta vie privée.
C'est pas moi, c'est les auteurs.
Non, je ne suis pas d'accord. Musiques. Non, parce qu'il y a les engagements.
Oui.
Dans la vie de Julien Clerc, il y a les engagements.
Oui, d'accord.
Et ils sont pour moi, vraiment forts. Une fois de plus, j'ai grandi avec toi, je suis désolé de te le dire. mais qui plus est, il y a ces messages personnels intimes.
Ouais.
À chaque fois, avec beaucoup d'élégance, c'est assez touchy, mais il y a souffrir par toi, n'est pas souffrir. Ouais. Pour moi, ça a été une révolution.
Je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir.
Là, on peut le dire, c'est pour France Gall, on est d'accord,
oui,
je ne me trompe pas.
Hein. Ça, je l'ai réclamé pour le coup. Il y a plein de textes que Roda m'a amené et que voilà,
Etienne
j'ai fait.
Rodagil,
mais là, hein. Etienne Rodagil. Mais là, c'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, écoute, je te demande de m'écrire un texte voilà, sur quelqu'un qui veut retenir quelqu'un qui part.
Ouais, ça c'est fort parce que là, c'est ta vie perso, c'est
ouais,
ce dont je parlais.
Ouais.
Et ta vie perso, elle continue parce qu'après France Gall, quelques temps plus tard, voilà, j'ai pas la référence, mais j'ai la préférence quand
oui,
même.
Oui, bien
hein.
sûr. Ouais.
Mais elle est ma préférence.
Celle-là, Julien, écoute-moi, quand tu es adolescent, que tes parents, que tes potes te disent non, elle, ça va pas être possible. Tu entends, Julien, je l'ai vécu dans Lyon.
C'est drôle.
Tu entends, non, c'est pas drôle, c'est vrai, Julien. Toi, tu te bats pour ta copine. Écoutez-moi ça, montez le son, s'il vous plaît, Blaise. C'est un truc de dingue, ça.
Je le sais.
Écoutez ça.
On ne me croit pas fidèle.
Tu t'imagines
ce qu'elle est.
Donc on croit qu'on la trompe parce que c'est pas possible que tu sois avec une gonzesse comme ça, quoi. C'est ça en fait les vrais mots sous-jacents.
Mais c'est vrai.
Le sous-titre, il est là. Et toi, tu mets, bien sûr, dans la lumière, tout ce que les gens vivent dans l'ombre. Tu te rends compte de ça ou pas?
Ouais, mais ça, c'est j'ai la chance des auteurs que j'ai rencontrés. Ça, c'est Dabadi qui a écrit ça.
Jean-Loup Dabadi, ouais.
Qui savait toucher le cœur des gens et trouver les bons sujets.
Il est extraordinaire, ce Dabadi, parce qu'il écrit pour Guy Bedos.
Ouais.
Des
très rare.
Non, mais attends, il est écrit pour Guy Bedos. Tout ça, c'est à moi. Tout ça. Il est dans le désert, c'est un chèque arabe. Et en même temps, en parallèle, il écrit ma préférence.
Ouais, il écrit pour Reggiani aussi. Et il écrit pour Paul Naref. Et il écrit pour le cinéma. Et il écrit pour le théâtre. C'est très, très rare.
C'est une demande, parce que là, tu es avec Miu Miu.
Non, là, c'est absolument pas une demande. C'est un petit message qu'il m'envoie.
Ah.
Parce que de temps en temps, on s'engueule avec Miu.
C'est génial.
Et lui, il, sans rien me dire d'autre, il écrit cette chanson.
Il te la glisse comme ça. Il te la glisse.
Il me la glisse comme ça.
Ouais.
Il dit, voilà, tes copains s'inquiètent. Voilà.
C'est fantastique. Ouais. Et nous tous, on s'inquiète. Et après, il y a tous les potes qui disent, tu sais quoi, tu te rappelles de Chantal ou de Catherine? Tu vois, les vieux prénoms à l'époque. Eh ben, Chantal, on n'est pas sûr. Tiens, je te mets le 45 tours de Julien Clerc sous la porte. Tu le mets dans ton mange-disque. Et puis, tu voilà. Enfin, voilà ce qui, vous voyez, tu vois les répercussions un petit peu qui se passent ici. Et puis, alors après, on est sur un rythme plutôt des années 80. Et puis, alors, quand je joue, je suis comme un fou. Je me fous de tout. Voilà. Là, Bruno Cocatrix devait être comme un fou parce que là, on est dans le populaire, c'est ça? Ouais.
Non, mais là, quand je joue, j'écris la musique et je la donne à tout le monde. Je veux dire à tout le monde, je veux dire, je la donne à Rodagil,
ouais.
Je la donne à Dabadi, je dois la donner à un troisième, je ne sais plus qui, je ne sais plus lequel de mes grands auteurs. Aucun ne me rend ce que je cherche. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Et donc, je n'ai pas les paroles que je cherche.
Ça, c'est énervant.
Musique.
Hein.
Et donc, on enregistre cet album-là au Canada, dans un studio qui est assez prestigieux, à Morin Heights, à une heure de voiture au nord de Montréal, dans les Laurentides, où ont enregistré plein de rockstars, les Stones, Police et autres. Et on enregistre là, et ma musique, j'ai toujours pas les paroles que je veux. Et on me dit, il y a Plamondon qui habite pas loin, tu devrais aller lui montrer. Et je la montre à Luc Plamondon. Et c'est là que c'est notre première collaboration quand je joue.
Eh ouais, Luc Plamondon, bien évidemment, c'est Starmania, c'est Michel Berger, ce sont toutes ces personnes-là de l'époque.
Exactement. Et avant toute chose, il écrit pour Diane Dufresne,
oui.
Qui est une artiste très très populaire au Québec. Peut-être vous vous souvenez de L'homme de ma vie aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
Voilà, ça c'est Plamondon. Donc à l'époque,
en
Plamondon.
En plein désert, en plein midi.
Voilà, c'est ça.
Mais je me rappelle très bien, oui.
Je lui donne ma musique. Voilà.
Alors, dans la musique, après, alors là, il y a le séducteur qui arrive. Alors, quand je dis le séducteur, on est dans les années 80 et les femmes, journée portes ouvertes le week-end. C'est parti. Là, c'est une histoire de fou, ça. Et elles sont toutes là en train de dire « Ah, Julien !»
Alors, pareil, moi, je la donne la musique à Dabadi.
Oui.
Puis, il me rend ça et je la joue à Miu Miu, tout fier. Et un petit silence et elle me dit « Femme, je t'aime. »
Oui, d'accord. Si tu pouvais éviter de me vouvoyer, tu me tutoies. Tu vois quand même que quelques années plus tard, on se tutoie. Je vais en parler, bien sûr, la prochaine fois que je verrai Miu Miu. C'est quand même assez extraordinaire. Elle était jalouse, alors, ça veut dire
parce que t'es
quand même un symbole de la séduction à cette époque-là.
Bah oui, oui, oui. Bah oui, elle était jalouse. Moi aussi, j'étais jalouse.
J'aime bien. Il y a tout le monde qui se marre. Bah oui, je suis un symbole de la séduction.
Non, c'est pas ça que je dis. Elle était jalouse. Je réponds. Elle était jalouse. J'ai dit, moi aussi, je l'étais.
Tu le vis comment? Parce que tu deviens un symbole. Je dirais pas un sexe symbole pour pas aller trop loin, pour pas te gêner quand même.
Moi, mais comme me l'ont dit des fois des messieurs, et ils m'ont dit, vous savez, arrêtez de dire que vous chantez pour les femmes. Moi aussi, je vous aime bien et on vous aime bien en famille. Donc, c'est vrai que j'ai eu dès le début un public féminin très, très aficionado.
Tenace, pugnace.
Tu sais qu'au tout début, on faisait des galas. On appelait ça des galas, on n'appelait pas encore ça des concerts.
Oui.
On passait dans des endroits. Des fois, moi, les mêmes endroits où Johnny était passé, il y avait des bagarres, ils avaient reçu des canettes sur la scène, c'était...
Mmh.
Bon, et moi, je passais dans ces endroits-là, et j'étais littéralement protégé par les filles, le temps que je chante pendant une heure, c'était visible, je le voyais bien, moi. Elles venaient devant la scène, les mecs, ils restaient au fond, là, c'est la chanson de Sardou, hein, les balles populaires.
Dans les balles populaires,
ouais, moi,
l'ouvrier est parisien.
Voilà, et puis, et on est près de la buvette, etc. Mais moi, je n'ai jamais reçu une cannelle.
C'est
un miracle.
C'est un fantasme ce dont tu parles. Tu t'imagines les gardes du corps qui sont que des femmes et les mecs qui ne passent pas.
Ouais, bah, c'était un peu ça que je ressentais. Qu'elle leur disait, écoute, fous-lui la paix pendant une heure.
Mm.
Parce que moi, j'arrivais quand même, je chantais le cœur volcan, enfin des trucs...
Oui, un peu chaud.
Je veux dire, c'était un petit peu... Il n'y avait pas que des trucs faciles.
Ben oui.
Et ben jamais on m'embêtait.
En revanche, eh ben, y en a plein qui voulaient aller danser, tout comme Lily, bien évidemment, par exemple. Là, on accélère un petit peu, là.
Ouais.
Là... Qu'est-ce que je me suis épuisé là-dessus? J'ai même gagné un concours de rock là-dessus, j'en pouvais plus, ça allait trop vite. Tu vois, il y a Ray Charles qui est arrivé, qui disait « Attention, ça va trop vite, fais attention au groove, fais attention à tout. » Et puis alors après, il y a eu le cœur de rocker. Alors là, on est vraiment dans le...
On est dans l'époque Plamondon.
Voilà, l'époque Plamondon. Ça, c'est dingue. Et puis après, alors là, quand on parle de séduction, il y a Mélissa qui arrive. Là, c'est un tout autre genre. Écoute ça. Alors là, t'envoies un signal quand même. Le rythme.
Ouais, j'ai mais jamais entendu. Il y a toujours eu un peu d'Antilles, enfin un peu de Caraïbes qui traînait dans ma musique.
J'en ai pas beaucoup
mais
vu avant.
Celui-là, c'est le plus, on va dire, le plus significatif.
Ouais. C'est les racines qui reviennent ou pas?
Oui, moi je pense. Et puis avec l'aide de David Matnik, qui a écrit les paroles. Oui, c'est ça, c'est les racines qui sont là. Elles ont toujours été là, mais on va dire que dans cette chanson-là, c'est le plus démonstratif.
La fille au banilon aussi, on continue toujours dans les années 80, 85, ouais. On doit être en 84 si je ne me trompe pas. Aussi, elle fait partie de nous, quoi. Elle fait partie de nous, quoi. Ouais. Là, pour moi, je suis dans un fantasme à 20 ans, moi.
Et puis, j'en ai fait un clip sympa avec Jean-Pierre Jeunet,
ouais.
Qui après a fait Amélie Poulain.
Évidemment.
Et là, il m'a fait... Moi, je n'ai pas toujours été très fier de mes clips, mais celui-là, franchement, je l'adore.
Ouais, parce qu'il y a un second degré.
Il y a un second degré un peu BD comme ça qui est sympa. Dedans.
Ouais, parce que le message, il est quand même assez fort aussi. Ouais. Les hommes, ils doivent... Qu'est-ce qu'ils pensent, les hommes, en 84, quand ils voient la fille au banilon? Toi, quel message t'as voulu envoyer
Oh là, c'est encore une fois des paroles de Plamondon. Oui. En plein dans la période Plamondon. Franchement, Plamondon, il m'a écrit des chansons... Quand elles arrivent sur scène, c'est un bonheur. Quoi. Mmh. Tout d'un coup, tout le monde est là. Et alors, Étienne Rodagil, qui était méchant avec Plamondon, qui le jugeait mal, parce qu'on était même arrivé à un moment donné à se fâcher. Quand on s'est retrouvés, la thèse d'Étienne, qui aimait bien tout théoriser, comme ça, c'était un côté politique qu'il avait, il a dit, écoutez, bon, allez, on oublie tout. Julien Clerc, c'est comme la Révolution française. On accepte tout ou on n'accepte pas. Alors, ça voulait dire que là, il acceptait Plamondon. Oui. Il m'a même dit un jour, ça a eu des années, il m'a dit, tu vois, ce genre de chansons, je n'arrive pas à les écrire. Donc, il reconnaissait par là l'utilité, je veux dire, si on peut dire, de Luc. Mais c'est vrai que toutes les chansons écrites avec Luc... Luc, il m'a dit un jour, moi, je sais que quand je vais entendre mes chansons, je n'ai pas besoin d'arriver... avant, dans le concert. Je sais que j'arrive vers la fin et que je vais toutes les entendre.
Ça, c'est fantastique. Tu t'imagines la traînée de poudre. Et puis, il y a le Julien qui revient avec cette sensibilité qu'on lui connaît. Avec Hélène, il y a toujours des prénoms quelque part quand même. Hein. Tous les garçons rêvent de dire ça à leurs copines de l'époque.
Ouais. C'est encore David McNeil. On voit bien que c'est un petit peu la même,
oui.
La même inspiration que Mélissa. C'est une musique que je montais à cheval à l'époque. Et alors, la musique me vient comme ça. C'est drôle, sans piano, quoi. Tam, tadam, 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 tadam. Je me suis dit, il faut absolument que... Parce qu'après, j'oublie, moi, si je ne fixe pas. Mmh. Ça peut me venir, mais après, ça peut partir. Alors, j'avais une espèce de caméra. Alors, je me suis filmé avec ma caméra en chantant.
C'était une espèce de Super 8 de l'époque.
Oui, c'est ça. Ouais. Ta-dam, 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 ta-dam.
Et donc, c'était un moyen. C'était le dictaphone de l'époque.
Exactement.
Ouais. Et donc, la mélodie est revenue après. Hein.
Voilà.
Tam, ta-dam, ta-dam, comme quoi Hélène est arrivée sur tam, ta-dam, ta-dam, ta-dam.
Voilà.
Et puis après, c'est pas Hélène qui est là dans ta vie, c'est Françoise. Et alors, quelle Françoise? Ouais. Celle qui va nous faire une place de dingue. Ouais. Fais-moi une place dans ton avenir. Françoise Hardy.
Je lui ai joué, elle est venue à la maison.
Ouais.
Et alors je lui ai dit, voilà, j'ai quelques mélodies pour toi. Et vous savez, il y a un truc qui était formidable, Françoise, c'est qu'elle vous disait, elle n'avait pas de filtre. Et elle vous disait franchement ce qu'elle pensait. Or, il se trouve que ce jour-là, elle détestait tout.
Oui.
Alors, je lui jouais mes mélodies. Elle disait, ah non, vraiment, tu vois, là, non, vraiment.
Mm-hmm.
Ah non, celle-là, elle n'est pas bien du tout. Je commençais à être miné. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, il y a celle-là, je l'ai commencée depuis 2-3 jours, mais elle n'est pas finie. Alors, j'ai commencé dans la... Et elle a dit, ah, celle-là, je la prends.
Sur la mélodie, juste.
Oui, là, 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 là. Elle a dit, celle-là, je la prends.
Ouais.
Alors, je lui ai enregistré. Et puis, elle m'a renvoyé le texte quelques jours après. Elle est partie avec sa cassette.
Ouais.
Elle avait pas comment.
Oui, parce que pour les auditeurs à l'époque, c'était des cassettes.
Oui, on enregistrait.
Non, il faut le dire.
Oui, oui, bien sûr.
Bah,
bien
évidemment.
Sûr. Oui, oui.
Oui, il n'y avait pas les CD, les machins.
Non, 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 c'était mini cassette.
Bon, mini cassette. C'est bien ça. Oh, j'adore cette nostalgie.
Bah oui,
oui.
Mini cassette.
Oui.
Et alors, donc, elle est partie avec sa mini cassette.
Mm-hmm.
Et puis, elle m'a renvoyé. Elle avait réussi, je sais pas comment, à mettre sa voix dessus, sur ma cassette. Et elle m'a dit, voilà le texte. Voilà, j'ai écrit ça sur ce que tu m'as donné. Tu ne dois pas changer une note, car je ne réécrirai pas.
Waouh. Ah oui, j'étais un dictateur.
Mais elle avait raison.
Ah mais ouais.
Elle avait raison.
Mais la place qu'elle a prise, c'est une histoire de fou, cette chanson.
Ah ouais. Et alors, notre grande fierté à Françoise et à moi, c'est quand Aznavour nous disait que c'était une de ses chansons préférées. Alors là, c'était notre bâton de maréchal.
On appelait ça le Graal. Et puis après, le temps passe. Et puis, j'ai vu une interview, tu sais, on a travaillé un peu, on a regardé, on a cherché. Le mot utile, d'où il vient ce mot utile? Je crois que c'est quelqu'un qui...
Non, on était fâchés. Et puis malheureusement, sa femme, Étienne
Rodagil,
est partie.
Ouais.
Et évidemment... Je suis allé le jour des obsèques le retrouver et évidemment, on s'est tombé dans les bras. Et le lendemain, on a déjeuné tous les deux. Il m'a redit ce qu'il me disait depuis le début. J'aimerais qu'on fasse un album juste toi et moi. Je fais toutes les paroles et toi toutes les musiques. Je lui ai dit OK. Et donc, il m'a dit à partir de, je sais pas, la semaine prochaine ou dans 10 jours, je viendrai tous les 2 jours t'apporter un texte. Et je me suis dit, c'est une promesse de Roda. Je le connaissais très, très, très bien, Roda, c'était le roi des posages de lapins. Et donc, c'était le roi de « Ah, mais j'ai ton texte, il est écrit, je te l'apporte demain », etc. Bon, et là, il est venu 15 jours après, et tous les 2 ou 3 jours, il sonnait à la maison, il arrive avec un nouveau texte.
À l'heure. Ah oui, alors là,
Premier, c'est celui-là. Et quand j'ai vu marqué « utile » en haut, je me suis dit « aïe, 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 c'est vraiment pas un mot de chanson, quoi, utile. » C'est
une espèce
de mot un peu grave, un peu austère. Et puis, j'ai trouvé la musique dessus. Et Dieu merci, il m'a écrit cette chanson parce que après, elle a... Une chanson qui a voyagé, qu'on m'a demandé souvent dans des moments graves,
bien
etc.
Sûr. On va en parler, bien
où
sûr.
Où il a réussi à dire en peu de mots ce à quoi servait éventuellement un artiste dans la société.
Et bien sûr, parce que sur le nouvel album dont on va parler, évidemment, sur les parvis, voilà, ça fait totalement sens et je fais cette parallèle avec Utile.
Oui, c'est vrai.
Parce que tu l'as chanté dans des circonstances, comme tu dis, très, 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 très fortes, quoi.
Ah là, oui. On en s'en parlait avec Alain Lanty, qui m'accompagnait ce jour-là.
Ton pianiste.
Enfin, avec qui on a souvent travaillé. Il travaille aussi avec Renaud, avec plein de gens.
Explique pour les auditeurs ce qui s'est passé à Nice.
Oui, on m'a demandé de venir à Nice après les attentats.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'était le président Hollande à l'époque.
Oui, c'est ça.
On a fait une très, très belle cérémonie. Ce n'est pas toujours réussi, ce genre de cérémonie. Mais là, celle-là, il y avait une gravité, une espèce de beauté. Enfin, tout était là. Et il se trouve que je chantais juste après une jeune femme qui avait perdu sa famille. Et c'était vraiment dur de passer après, de chanter une petite chanson.
Ouais, tu t'es raccroché aux paroles, quoi.
Oh là là. Et donc là, j'ai pensé à Étienne très fort. Franchement, quand j'ai fait ça, Alain Lanty derrière moi était en larmes au piano. Et tout d'un coup, j'avais peur de ne pas me souvenir des paroles. Enfin, c'était franchement, c'était un des moments très très forts de ma vie. Et il se trouve que je chantais ma chanson dans ce moment-là, ce qui est la plus belle récompense pour un artiste. Parce qu'on est en prise directe et on est avec l'actualité en même temps et avec les gens de son pays.
Oui, parce que en fait, cette chanson, si je ne me trompe pas, a été écrite en 1992 et qui est totalement, qui s'avère totalement dans l'air du temps. Nous, qui sommes derrière les micros, toi, la chanson, nous tous un petit peu, il faut qu'on se sente utile à quelque chose.
Ah oui.
Et ça donne ça.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver.
Je veux être utile à vivre et à rêver. Quand on est compositeur comme toi, on dit compositeur, on dit mélodiste, mais toi, tu t'occupes pas de paroles. T'as jamais écrit des paroles?
Non, je suis nul.
Mais quand tu entends ces paroles-là...
Je lui dis merci, hein.
Ouais, je te vois encore hyper ému, parce qu'à chaque fois, il doit y avoir des images de fou, quoi.
Oh, oui. Non, en plus, quand j'avais commencé à composer cette chanson, il m'avait promis qu'il viendrait, donc il était venu. Et il était habitué depuis toujours, Étienne, c'est vrai, quand j'ai un texte qui me plaît, ça peut venir assez vite, la musique. Mmh. Ça, ça, c'est arrivé souvent.
Bien sûr.
Et alors, il était planté à côté de moi.
Et il attendait.
Il attendait.
Tu veux un café?
Je lui ai dit, tiens, je vais pas la faire comme ça.
Oui.
Mais 20 ans.
Ah ouais, bah oui, il y a une pudeur. Il y a quand même une pudeur quand on compose, quand on écrit. Il y a cette pudeur. On a besoin d'être sur soi-même aussi, de se retrouver.
Non, mais j'entendais tellement de fois Becco m'expliquer qu'ils avaient écrit des chansons à deux, que Delanoë était assis à côté de lui, qui trouvait phrase après phrase, etc. Mais nous, ça n'a jamais été ça.
Mais chacun a son ressenti aussi.
Chacun a sa façon de faire.
Ouais.
Et je sais que Becco, il a écrit nombre de chansons comme ça, avec l'auteur assis à côté de lui. Mais nous, ça n'a jamais été ça, avec Rodin, ni avec les autres. C'est à distance, on parlera tout à l'heure de Paul École. C'est à peine... Paul École, évidemment que je le connais parce que je l'ai rencontré une ou deux fois. Mmh. Mais on se parle la plupart du temps au téléphone. Et c'est comme ça qu'on communique. On n'a jamais été assis l'un à côté de l'autre pour écrire.
Oui, chacun son truc, quoi.
Chacun son truc.
On n'a pas le nom de Becco, on a le nom de Julien Clerc.
Oui.
On va terminer ce petit parcours pour les auditeurs. Je dois t'avouer que je me régale avec toi.
Oh, c'est gentil.
Non, c'est pas gentil, c'est vrai, c'est sincère. Là, il y a quand même une petite perle que j'aime. Parce que figure-toi que la semaine dernière, derrière ce même micro, on avait une dame. Et ça va te rappeler quelque chose.
En prose ou en vers, laisse-moi te dire encore que tu es la seule que j'adore dans l'univers.
Volons vers la lune.
Alors, c'est un disque de reprise des chansons qu'on appelle le Great American Songbook, qui sont les chansons en gros entre 1935 et 1960 et quelques.
Mm-hmm.
Ces chansons que tous les grands artistes américains ont reprises, de Sinatra à Ella Fitzgerald, tout le monde a repris ces chansons. Plein d'artistes américains qui avaient des problèmes de popularité se sont rebectés avec ces chansons-là. Ça porte très bien son nom, The Great American Songbook, c'est-à-dire le grand livre des chansons américaines.
Et là, cette c'était chanson, la reprise de Fly Me to the Moon.
Voilà, Fly Me to the Moon et quelques autres, un disque qui s'appelle Studio. C'est une musique qui me hantait. Il fallait absolument que j'en fasse un disque pour expulser ça. Et j'ai demandé à Maxime Le Forestier, à David McNeil et à quelques autres, Benjamin Biolay, d'écrire des paroles françaises sur ces chansons-là. Ce que veut juste dire très rapidement, c'est que c'est une musique qui n'est pas très, très connue en France.
Mm-hmm.
C'est vraiment dans les mondes anglo-saxons, c'est la base de la culture musicale.
Fly Me to the Moon. Frank Sinatra.
Fly Me to the Moon en fait partie.
Ouais, c'est Frank Sinatra.
Entre autres, mais ils l'ont tous chanté, il faut le savoir.
Ouais,
tous,
bien sûr.
Tous.
Je me permets d'embrasser Véronique Sanson, évidemment, puisque c'est d'elle dont on parle.
Bien
et elle
sûr.
Était à ta place la semaine dernière.
Ah, bah, oui.
Et ça a été un bonbon fantastique.
Bah oui, évidemment.
Elle est d'une hypersensibilité de dingue. Et puis, je terminerai cette énorme carrière discographique avec un message un peu plus personnel. Non, c'est pas message personnel, mais c'est écrit par Maxime Le Forestier, quelqu'un que j'aime aussi profondément et sincèrement, et il a pondu ça.
Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici.
Je te vois réfléchissant, Julien.
Non, parce que je repense. Je me souviens, là aussi, c'est une chanson de commande. J'en ai pas fait beaucoup, mais là, c'est une chanson que je lui ai réclamée, sachant qu'il avait vécu ça comme moi et sachant que les enfants de divorcés connaissent des choses que les autres enfants ne connaissent pas.
Ouais.
Ils ont des sentiments, ils ont des émotions que les autres ne... C'est un club, je crois, qui malheureusement s'est agrandi.
Ça s'appelle le club des divorcés.
Oui, ben c'est vrai, des enfants divorcés. Et je savais qu'il avait vécu ça, Maxime, comme moi. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse une chanson sur le divorce vu par les yeux de l'enfant.
Tu as réitéré le schéma, quelque part, avec les tiens ou pas? Comment ça s'est passé?
Malheureusement.
Ouais. C'est un regret pour toi, hein? T'aurais aimé faire différemment
Si j'avais pu faire différemment, je l'aurais fait. C'est la vie qui a fait ça. Et c'est certain de leur avoir imposé ce que j'avais moi-même vécu. Malheureusement, je savais... D'ailleurs, quand j'ai demandé à Maxime de m'écrire la chanson, c'est que j'étais dans une période de séparation et je ne savais pas trop comment leur expliquer ça. Et je me suis dit, j'ai cru naïvement qu'une chanson résoudrait le problème.
La fierté quand même pour un père qui soit dans un... Quasiment tous, hein, je pense, si je me trompe, tu me le dis, tous dans un milieu artistique quand
beaucoup,
même.
Beaucoup, beaucoup.
Ouais. C'est une fierté pour toi quand même. Ça veut dire qu'il y a une espèce de transmission, malgré les souffrances, les parations, les séparations, etc. Il y a quand même le sang julien quand même.
Ah oui, je crois. Moi, c'est très difficile, on le sait tous, hein, d'élever des enfants. C'est le métier le plus dur au monde par an.
S'il y avait un mode d'emploi, on le saurait.
Bien sûr.
Oui.
Mais donc, on essaie de donner un pas trop mauvais exemple et puis aussi de leur dire, écoutez, moi, c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit, c'est sûr, plus ça va aller, plus gagner sa vie, ça va être difficile. On est dans un monde très dur. Mais essayez avant tout de faire quelque chose qui vous plaît, dont vous êtes fier, et éventuellement, l'argent suivra.
Oui, c'est ça. En fait, y a une expression qui s'appelle « des racines et des ailes ». Toi, c'est les racines, nous sommes les racines et il faut leur donner les ailes.
Bah oui, exactement. C'est un très, 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 très joli résumé.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment, en podcast sur l'appli Nostalgie.